La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec.
Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue. La formation de départ, the starting lineup, le numéro 40, number 40, Maxime Lapierre. Le numéro 84, number 84, Guillaume Latendresse.
Ford, construit avec fierté.
On commence le bal de ce soir avec Max Lapierre. Salut mon Max, comment ça va?
Salut Mario, ça va super bien toi?
J'espère que je t'ai pas enlevé le sourire dans mon introduction en partant.
Ben, au contraire, tu m'as donné le sourire au début parce que Brian Saint-Louis, là, le gérant d'équipement à Bécomo, je l'ai rencontré cet été et puis c'est bien mérité. Quel professionnel honnêtement. Ce gars-là a tellement de passion pour son métier. Gérard, Mathieu, tu savais que Guillaume et moi, on a été à Bécomo pour faire un match contre les anciens de Raccord. Et puis quand on est arrivé là, honnêtement, on était traité comme si c'était un match 7 de la Ligue nationale de hockey. On en revenait pas, c'était incroyable. Les chandails accrochés dans le vestiaire, les patins aiguisés, tout était parfait. J'ai rarement vu ça, une personne avoir autant de passion pour son métier.
Ben, tu vois, ça, je disais, ça a commencé, il y avait 16 ans, tu sais, il traînait, c'était un, tu sais, comme on dit, moi tout, je traînais dans les arénas, j'étais marqué un chronomètre, pinait et but, tu sais, fait que lui, il est devenu préposé de l'équipement, toutes ces années-là plus tard, il s'en va aux Jeux olympiques, puis c'est drôle, parce qu'en plus, quelque chose qui te touche aussi, c'est que toi aussi, tu l'as eu cet appel-là inattendu dans ta vie, dans ta carrière, d'aller aux Olympiques. Ça t'agite-tu des petits... Puis je sais que c'était pas l'équivalent d'une Coupe cette année pour toi de participer à ça, puis t'aurais souhaité que les meilleurs y soient, mais il reste que tu peux deviner un petit peu les frissons, les papillons dans l'estomac de tous ceux qui ont l'appel là, ces jours-ci.
C'est un cadeau. Je pense qu'à un moment donné, d'une situation comme celle-ci, c'est une récompense pour une belle carrière. C'est comme ça que je l'avais vu. Je suis sûr que Brian Saint-Louis, c'est la même chose. C'est bien mérité. Tu sais, des fois, c'est une question de timing dans le hockey. Peut-être qu'on n'a pas eu le bon timing pour faire partie des gros événements, puis tout ça. Puis des fois, ben ça tombe du ciel. On a la chance d'aller aux Olympiques ou quelque part du genre. Et puis, on apprécie chaque minute lorsqu'on a la chance de représenter le Canada comme ça.
Exactement. Je sens, je pense pas me tromper, je sens le sourire dans ta voix, Maxime. Ça sentait le sourire.
J'ai
hein?
le gros sourire. J'ai le gros sourire. Ouais. Là.
De quoi je pourrais te parler pour te mettre de mauvaise humeur?
Ben, c'est là, par contre, la partie B, tu peux continuer. Je pense que tu vas me l'enlever rapidement.
non, je fais des blagues. Mais écoute, je sais pas si tu as de l'info à nous partager par rapport à où ça s'en va, la sélection du prochain DG. On nous annonce, il y a des informations qui viennent de toutes sources. Il n'y a aucune information à l'effet que, même s'il en restait 3-4, que Patrick Roy n'est plus dans le coup. As-tu l'impression
que... J'aimerais ça, hein, Mario?
Ben, moi, c'est pas ça que j'ai dit. Juste pour le rappeler, pour les gens qui n'ont jamais entendu nos échanges précédents, moi, je pense qu'une organisation qui... Un petit peu comme à Détroit avec Steve Yzerman et Niklas Lidström, un petit peu avec Anaheim, avec Niedermayer, avec Selanne, puis j'en oublie. Je veux dire, je vois pas qu'est-ce que les anciens Canadiens qui ont gagné des coupes ici puis sont encore actifs dans le hockey ont comme virus pour qu'on tente de s'en éloigner. Mais, tu sais, puis je te dis pas qu'il est obligé d'avoir la job, je le répète, de DG, puis pas obligé d'en avoir 15, mais qu'il en ait à peu près pas. Et comme tu l'as souligné, Maxime, en plaidant en faveur de Guy Carbonneau cette semaine, c'est un non-sens pour moi. C'est un non-sens. Cela dit, j'ai hâte de voir la suite, là.
Exactement. Non, mais moi, ça n'a même pas rapport avec les personnalités et les autres équipes. Les autres équipes, c'est de garder la tradition. C'est plus ça. Tu sais,
l'ADN. Sûr...
Exactement. L'ADN du Canadien de Montréal, l'équipe qui a remporté tant de Coupes Stanley. Et puis, à un moment donné, il faut que ça ait une valeur. Les joueurs qui se sont sacrifiés, qui ont saigné pour l'organisation, tu peux pas juste les éloigner après, à la fin du contrat. Puis c'est salut, bye, on ne se revoit plus du restant de nos vies. Je pense qu'il faut trouver un moyen d'en avoir plus dans l'entourage de l'équipe. Ça, je suis 100% d'accord avec toi.
Puis, je pense que là, je vais glisser un peu sur un territoire qui ne te concerne pas nécessairement les équipes de hockey, mais je pense que dans toute entreprise, c'est sûr que tu commences pas à jouer au hockey dans le but de devenir président de l'équipe pour laquelle tu joues, parce que ça prend plus de joueurs que ça prend de président. Mais la promotion par l'interne, promouvoir ceux qui ont défendu ton honneur, ils sont allés au front, comme on dit, promouvoir par l'interne dans toutes sortes de rôles, parfois symboliques, parfois honorifiques, parfois concrets, ben moi, je pense que dans n'importe quelle entreprise, c'est un bon message que tu envoies aux gens qui travaillent pour toi.
Ben oui, premièrement comme récompense, mais deuxièmement, Mario, c'est parce que tu connais personnellement la personne. Tu sais, à un moment donné, si tu as travaillé avec un joueur pendant 10-15 ans, tu sais c'est quoi sa personnalité, tu sais comment il va réagir face à l'adversité. Tu sais s'il est patient ou s'il est stressé, tu sais s'il il pense juste à ses statistiques. Tu connais la personne, donc normalement, t'es supposé avoir une longueur d'avance. Tu sais, puis ça veut pas nécessairement dire non plus que tu dois gagner une Coupe Stanley et tu dois être au temple de la renommée. Là. Parce qu'il y en a des joueurs, tu sais, je pense, en ce moment, un qui aide grandement l'organisation, Francis Bouillon. Tu sais, c'est un exemple parfait pour
quel
moi.
Quel bel exemple.
Ce gars-là donnait ce qu'il avait à donner pour le Canadien, adoré, était en amour avec le Canadien de Montréal. Puis aussitôt qu'on l'a appelé, il est venu travailler pour le Canadien. Puis il veut aider, puis il veut faire grandir les jeunes joueurs dans l'organisation. C'est des rôles comme ça, je trouve, qu'on devrait toujours se tourner vers un ancien Canadien.
Et lui, il incarne ça, Francis. Puis tu sais, bon, puis c'est pas un rôle qui est sous les réflecteurs, le rôle qu'il accomplit, mais faut pas oublier qu'il est là. Et c'en est un de ceux qui rejoint exactement ce qu'on dit toi et moi, Maxime. C'est pas là-dessus qu'on va s'ostiner, nous autres. Faut que je trouve d'autres choses, hein?
Non, exact. Ben, c'est parce qu'on pense toujours à la position de directeur général. Tu sais, ça, c'est juste une personne dans l'organisation. Si le directeur général, il vient d'une autre organisation, mais qui est entouré de 20 gars d'anciens Canadiens, à un moment donné, le message, ça va être le message des anciens Canadiens. À moins qu'il ait vraiment la tête dure, là, le directeur général, là, mais...
À moins que ça se passe comme dans les dernières années, quand Carbeau vient me dire en nom d'un soir, ben, il y a un mur entre le Canadien et les anciens. Tu sais, écoute, pour que Carbeau dise ça, ça te donne une idée de comment que les gars puis toute la gang se sentait à rentrer au Centre Bell depuis 10 ans?
T'es pas supposé d'être gêné de revenir au Bercail. Ça, je peux te garantir ça.
C'est pas supposé. Maxime, par rapport à la sélection, il semble que le groupe des candidats, candidates rétrécit. Penses-tu qu'au moment où on se parle, il y a encore une candidate au poste de DJ qui a que des candidats?
Ben, j'espère. Il y a beaucoup de gens, de femmes qui ont des compétences pour être là. Je suis certain qu'il y en a minimum une qui est encore là, au moins pour avoir un rôle dans l'organisation. Encore une fois, on parle juste du directeur général comme poste, mais il y a d'autres rôles, puis ça peut être encore pour être directeur général aussi, mais j'espère. Je pense qu'on est rendu là dans le hockey. Tu sais, on parle souvent qu'on est rendu là dans le hockey, mais à un moment donné, ça va prendre de quoi de concret. Il va falloir que quelqu'un soit là et soit signé. Tu sais, il faut arrêter de dire qu'on fait des entrevues et tout ça. Signons quelqu'un. Faut le faire pour faire avancer les choses dans le monde du hockey et pour les femmes dans le monde du sport. À un moment donné, c'est bien cute d'en jaser, mais faut signer en bas du papier, il faut le faire à ces dames-là.
Ben là, je me risque, tu viens de le dire, c'est bien cute d'en jaser. Je vais poser une question possiblement impopulaire, mais si on n'a plus le droit de se parler en toute candeur, ça ne donne à rien. Hein. Est-ce que tu penses vraiment, et là, ouais, j'y vais, je me l'étais écrit, est-ce que tu penses vraiment qu'il y a une femme qui est plus qualifiée que tous les candidats masculins pour le rôle actuellement, comme avec les Vikings de Minnesota avec Katrin Reich, ou que c'est pour bien paraître?
Ben, c'est difficile parce que honnêtement, Mario, même du côté des hommes ou des femmes, je trouve que tout le monde apporte quelque chose de différent. Puis je dis pas, j'essaie pas de comment on dit ça, sugarcoater, là. Je veux pas faire la bonne parole puis tout ça. Je regarde puis tout le monde est différent, que ce soit de Patrick Roy à Mathieu Darche, à Daniel Brière, Daniel Sauvageau. Tu sais, à un moment donné, tout le monde amène quelque chose. Ce que j'aime du côté des femmes, c'est qu'à un moment donné, tu vois la game différemment. Pourquoi? Parce que c'est des styles de jeu, oui, semblables et tout ça, mais Guillaume l'avait mentionné à un moment donné dans une entrevue, c'est que c'est un autre style d'hockey. Tu sais, on y va pas pour la grosse mise en échec, on y va pour la rondelle, l'intelligence, la structure. On est vraiment l'emphase est là-dessus, là, du côté du hockey féminin. J'en ai vu plusieurs matchs, là, oui. Surtout quand j'étais allé aux Olympiques, j'allais toujours voir les matchs avant les nôtres, puis c'est du beau hockey, là. Tu sais, faut que tu penses. C'est différent, la façon de l'approche au porteur et tout ça. Puis ça amène une autre dimension, je trouve, à un moment donné, puis une autre façon de voir les choses. Puis ça, c'est important pour moi. Parce que si t'as 20 monsieur du country club, là, des années 1980, qui sont tous assis autour de la table et qui parlent la même affaire, à un moment donné, comment tu fais pour avancer? Tout le monde a les mêmes idées. Fait qu'il y a quelqu'un qui dit, ben, on va jouer comme ça, puis tout le monde à côté, oui, oui, on shake la tête, bon, ben, bravo, tu sais. Ça prend quelqu'un qui challenge puis qui dit, non, moi, je suis pas d'accord. C'est comme ça que tu grandis comme organisation. Si tout le monde s'en va du même bord dans le bureau, c'est à la glace, faut aller du même bord, du même côté. Mm-hmm. Mais dans le bureau, des fois, faut que ça soit long, là. Faut que t'aies un meeting de temps en temps, puis que t'es à la maison, puis tu sois fâché, là, normalement, dans une business comme ça, là. Ça peut pas toujours être « Oui, monsieur, parfait, bye-bye ». Tu sais, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Ça peut pas être une business de « yes man », ni de « yes woman ».
Ben non, exactement.
Mais en même temps, tu sais, t'as vu ce qui s'est passé avec les Flyers de Philadelphie. Il y a un boss, puis bien souvent, que ça plaise ou non, et c'est lui qui prend les décisions. Mais je te rejoins là-dessus. Pour enrichir la conversation dans un comité hockey, moi je le dis depuis le début, c'est une vague de têtes d'hockey qui s'en vient.
Ben oui, mais exactement, Mario. Tu sais, c'est un point que je débat depuis le début, puis on en a parlé la semaine dernière. je te disais que moi, je crois pas en ça, une personne qui prend les décisions. Si on revient à l'exemple que tu viens de mentionner. Si à Philadelphie, là, Extall n'était pas seul à prendre une décision. Si, admettons, je te mets ça simple, là, ça fonctionne à vote à main levée, puis il y a trois personnes. On s'entend-tu que Makar joue à Philadelphie en ce moment?
Là? Oui, monsieur. Hey, les autres, ils vont se broyer longtemps. En Europe, juste pour le rappeler, parce que tu faisais allusion aux expériences que tu as vécues en Europe, en Allemagne et en Suisse. Est-ce que, je sais pas si tu as eu l'occasion de participer ou d'assister à un comité de direction où on te racontait, est-ce que c'était au vote à main levée comme ça, Max?
Ben, exactement. Puis c'est tout le monde, c'est des propriétaires, des actionnaires et des anciens joueurs qui jouaient pour Lugano, qui était l'organisation pour laquelle j'évoluais. Et puis, je vais te donner l'exemple parfait. Moi, quand j'ai signé mon contrat à Lugano, le directeur général ne voulait pas de m'avoir. Et puis, en arrière, ben on a dit, « T'as une minute, là? » Non, non, non. Nous autres, on vote à 10 contre 1, fait que tu vas le signer. C'est comme oui. ça que ça fonctionne.
Fait qu'on t'a rapporté comment le vote. Fait que là, tu le sais, t'entres dans l'organisation. Tu dis, lui, il voulait pas que tu viennes.
Ben exactement. Moi le directeur
général...
Tout
le monde est à cœur ouvert dans ce sens que même si c'est pas leur intention, je veux dire, il y a une transparence obligatoire. Là. C'est que tu sais qui est pour toi et qui ne l'est pas.
Ben exactement. Puis moi, encore pire, moi j'ai eu l'appel de mon agent dire le directeur général il a dit non, donc on va regarder ailleurs. Puis deux jours après, j'ai eu un appel dire qu'est-ce qui s'est passé dans les négociations avec le directeur général. J'ai dit ben on m'a pas rien offert. Dit, on te revient dans quelques heures. Puis j'ai eu mon contrat. c'est aussi simple que ça. Puis entre moi et toi, ils ont eu raison. Ça a été une des bonnes signatures. T'sais, c'est pas le même niveau, mais on est allé deux fois en finale en deux ans. Puis on n'a pas gagné, mais on s'est rendu jusqu'à là. Ça faisait 10 ans que l'équipe avait pas passé la première ronde. Mais si c'était juste le directeur général qui avait pris cette décision-là, je m'en vais pas là.
Maxime, c'est une belle histoire et c'est incroyable quand même. Je suis content que tu l'aies vécu, l'expérience européenne. Ça a été toute une expérience de fin de carrière en toi, pour toi. Je veux dire, ne serait-ce que de te faire goûter à autre chose, goûter aux Olympiques, savourer d'autres cultures, puis dans la façon de faire le hockey également, qui a un point de vue différent.
Ben exactement. Puis le meilleur exemple, je l'ai vécu. J'ai vécu un beau moment hier, Mario. Quoi le donc? Jeune Lucas Reichel.
Qui jouait... J'ai oublié de t'en parler. Je m'étais pris une note. Ben oui, vas-y.
Il jouait son premier. Tu parles de l'Europe et tout ça. Puis ça me rappelle, tu sais, il a joué son premier match hier. Puis drôle de coïncidence, il joue contre le Canadien de Montréal. Donc j'ai la chance de le regarder. Puis tu sais, on parle de développement et tout ça. C'est ça que je mentionnais hier dans une autre émission. Je disais, tu sais, lui, là, le jeune, il avait 17 ans, il jouait sur mon trio. Puis oui, les joueurs, par exemple, dans la Ligue junior majeure du Québec, sont entourés par des très bons entraîneurs, les très bons parents, les agents, puis tout ça. Mais lui, j'avais la chance d'être assis à côté de lui, puis vivre chaque moment durant un match, puis d'y parler, puis de le garder motivé ou de l'aider quand il était négatif ou d'y donner des petits trucs, tu sais, pendant 60 minutes de temps assis à côté de lui et à jouer avec lui, parler lors de toutes les mises en jeu et tout ça. Puis je racontais une anecdote ou deux, tu sais, dans le fond, c'est que un soir, il y avait tous les recruteurs de la Ligue nationale étaient là pour le voir jouer. L'aréna était remplie, je pense que c'était 15-16 000 personnes, et puis ça allait pas bien. T'sais, puis j'y ai dit sur le banc, j'ai dit « Lucas, tu penses-tu que les recruteurs ici qui ont vu à peu près 50 000 games dans leur vie, ils savent pas que les jeunes ils jouent mal de temps en temps devant eux à cause du stress et tout ça? Eux, ce qu'ils veulent voir, c'est la réaction. T'as-tu du caractère ou t'en as pas quand ça va mal? » Puis là, j'ai vu une lumière, il a allumé, là. Il a dit « Je pense que je viens de comprendre quelque chose. » Même chose comme des fois, en fin de match, il y avait deux buts par exemple. On se faisait envoyer sa patinoire avec un filet désert pour l'équipe adverse. Puis je disais avant d'embarquer, Lucas, le recruteur en haut, là, tu penses-tu que tu vas l'impressionner plus si tu comptes 3 buts que 2 buts ou si tu bloques un lancer puis tu fais que l'équipe gagne? Et là, il allumait encore. Tu sais, c'est des beaux moments que ça m'a rendu heureux parce que je vivais... Tu sais, c'était bizarre parce que je me voyais dans lui puis je me disais, c'est le même que je pensais quand j'étais jeune puis c'était pas la bonne manière. Tu sais, je me disais, faut que je compte un but, faut que j'impressionne le recruteur. Puis ça, je pense qu'en Europe, les jeunes ont un certain avantage de ce côté-là.
Et c'est une générosité naturelle. Tu lui as partagé sur le champ tout ce que tu pouvais lui partager. Puis ouais, il devait avoir un petit peu de fierté dans toi. Qu'est-ce que tu as pensé du fameux but accordé hier qui a tranché le débat en prolongation, Maxime?
Ben là, je suis...
Pas vrai, là.
Je suis mélangé, Mario.
Verras-tu une finale de la Coupe Stanley? Admettons, là, s'il est bon, OK, il est bon. Ah, il est bon, OK. Ça veut dire que si un but pareil était marqué, admettons, en overtime, en prolongation, match de la Coupe Stanley, ça veut dire que la finale de la Coupe pourrait finir de même.
Le but c'est très bon. Grave. C'est très grave, selon moi.
C'est une joke.
J'ai toujours de la misère avec ça, parce que là, on revient toujours du côté de la Ligue nationale de hockey, dire, on nous envoie, par exemple, par Twitter ou Instagram, là, c'est, voici le livre des règlements. Bon, mais parfait. C'est juste le règlement, c'est pas bon. Changez-le dans le livre, c'est tout. Tu peux m'expliquer que c'est le livre des règlements puis que sur la patinoire, ça a été appliqué. Parfait. C'est pourri. Il y a aucun bon sens. Ça fait aucun sens.
T'sais, comme une loi qui n'a pas d'allure, tu sais.
Ben oui, donc, à un moment donné, là, tu sais, on peut-tu juste revenir à la base? La rondelle doit entrer en premier puis on s'arrangera avec le reste après, là, pour commencer, selon moi, là.
Maxime, une petite dernière avant de te quitter pour le week-end. Est-ce que Romanov, qui progresse bien, il est très solide, ses mises en échec percutantes, on l'a vu hier, doit-il apprendre à se battre?
Doit apprendre à se défendre. Ça, c'est sûr et certain. On parle beaucoup d'éliminer les bagarres dans le hockey et tout ça. Je comprends. Puis je suis d'accord à un certain niveau qu'à un moment donné, il faut protéger la tête. On connaît les répercussions et tout ça. Mais c'est encore là. Ça fait encore partie du hockey. Et puis si ça fait partie du hockey, ben un gars comme Romanov, puis il y a des gens qui aiment la loi du livre ou le code et tout ça, mais qu'on l'aime, qu'on n'aime pas, qu'on trouve ça ridicule ou non, c'est encore là. Puis tant qu'il va donner des mises en échec comme ça, on se rappellera Yemlin qui était à Montréal, c'était la même chose. Tant qu'il va frapper comme ça, il va y avoir quelqu'un qui va y sauter dessus une fois de temps en temps. Pour moi, c'est juste d'apprendre à pas recevoir un coup de poing puis se jeter par terre, juste se protéger le visage, puis le reste, ça m'importe un peu. Tu sais,
moi, il est pas obligé de se battre selon toi.
Ben, qu'il se batte pendant une minute puis qu'il gagne son combat, je m'en fous carrément. Là, mais au moins qu'il se protège. Pour lui-même, je pense que quelqu'un devrait au moins lui montrer les techniques de base de comment esquiver un coup de poing, parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va avoir de l'expérience. Je prends par exemple un Ryan Reeves. Si Ryan Reeves hier lui sautait dessus, c'est sûr qu'il y en a au moins un qui va lui atterrir sur le bout du nez. Tu sais, on va s'entendre. Là. Alors la bagarre, non, en tant que telle, mais au moins apprendre à se protéger le visage.
Au retour de la pause, Maxime, peut-être que tu voudras entendre ça. Peut-être qu'il y en a qui t'essayent dans les ligues de garage. Benoît Brunet va nous raconter les cours de boxe qu'il y a eu des frères Roberge dans le temps.
Fait que, c'est
encore de mise aujourd'hui. Maxime, une excellente fin de semaine, mon chum. Attention à toi.
Bye bye, bonne fin de semaine.
Bye Max. Merci beaucoup. On revient avec Ben Brunet, cours de boxe à l'horizon pour Romanov, à la blague, d'autres sujets qu'on va aborder également. Le temps de glace alloué à Jonathan Drouin envoie quel genre de message aux jeunes de l'organisation par rapport à l'investissement de soi? On va tenter d'y répondre dans un instant.